programmation, direction artistique. Lorsqu'on entend ces noms de métiers, on imagine tout de suite un champ de liberté et de possibilités sans limite. Mais est-ce réellement le cas? Peut-on réellement programmer ce que l'on souhaite? Quels sont les critères à prendre en compte? Comment définit-on une identité artistique? Ce sont toutes ces questions que nous sommes allés poser à Gwen Rouget, directrice artistique de Sound Initiative, et Benoît Delacaise, programmateur de la Maison de la Culture d'Amiens. Débutons avec Gwen. Bonjour Gwen, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter?
Je suis Gwen Rouget, je suis une artiste pianiste, claviériste, performeur et compositrice qui conçoit des performances basées sur la relation, sur l'interaction avec les spectateurs et les spectatrices. Et je suis curatrice de concerts dans le cadre de la direction artistique de l'ensemble de musique de création Sound Initiative depuis 9 ans.
Quel est, pour toi, le métier de directrice artistique?
Alors, il y a beaucoup de casquettes, comme on dit en français. Mais je dirais que la plus importante, ce serait curatrice de concert, avec des idées, qui doivent être un peu folles, c'est-à-dire sans restriction, sans modèle, peut-être, sans redite, idéaliste, je dirais ambitieuse dans le bon sens du terme, mais toujours en lien avec un système de réalité, pour qu'au final, les choses se fassent. Je pensais au mot adaptabilité sans concession. C'est un peu particulier, mais c'est quand même toujours la sensation de devoir confronter ses idées à une forme de réalité et d'essayer d'avoir le moins de concessions à ce moment-là, mais d'être toujours quand même dans le concret avec tous les partenaires, tous les collaborateurs.
S'il y avait trois qualités ou compétences que tu estimes indispensables pour faire ce métier, ce seraient lesquelles?
Alors, je dirais d'abord avoir une passion pour la conception de concerts, la réalisation, la conception artistique. Je dirais en deuxième, être à l'écoute de son groupe et bien savoir communiquer, et avec à la fois les musiciens-musiciennes et puis donc l'équipe de fonctionnement. Et du coup, savoir travailler en équipe, ça je pense que c'est super important, avec les personnes qui sont en charge de l'aspect administratif, financier, les aspects techniques. Car en fait, tout est relié, tout est interdépendant dans ce travail.
Ça veut dire quoi, avoir une ligne artistique ou une ligne éditoriale?
Alors, de mon expérience dans la direction de son initiative et aussi dans mes projets solo, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on conçoit à l'avance. Une ligne artistique, elle se dessine au fur et à mesure des projets. Et c'est comme si on la voyait dans le rétroviseur un peu, après coup, quoi. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. On se dit un jour autour d'une table, bon, ça va être mon projet, ma ligne artistique, mon projet artistique. C'est quelque chose qui, petit à petit, se dessine et on le perçoit après avec une évidente continuité, quoi, artistique, des intérêts, des questions qu'on a... qui sont abordés. Alors, ça peut prendre du temps, surtout pour que ça devienne précis et original dans le sens, pas bête, mais dans le sens origine, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un ADN, quoi, que ce soit ton ADN, ce soit ton originalité, dans le sens ton origine, de ce qui te constitue vraiment. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment décider. Pour moi, ça se fait au fur et à mesure des projets. Il y a un moment où je pense que ça devient de plus en plus clair. Alors, c'est vrai qu'autour de nous, on nous demande énormément de formuler, de communiquer, de rassurer d'une certaine manière sur des projets qui sont émergents, donc qui sont des projets innovants, donc d'invention, donc peut-être par essence pas forcément très rassurant. Et donc trouver les mots aussi pour les exprimer, c'est pas toujours facile puisqu'on invente. Donc par définition, il n'y a pas de mots. Mais je dirais qu'il ne faut pas se presser. À mon avis, ça se fait aussi assez naturellement d'arriver à résister un peu, de ne pas forcément nommer tout de suite ou de ne pas forcément rentrer dans des cases ou dans des définitions. Ça va prendre ce temps et à un moment donné, ça va devenir clair et on va pouvoir réussir à exprimer à l'extérieur finalement l'essence du projet. Mais voilà, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui se fait par projet, à monter des choses. Et puis au final, on se rend compte que c'est quand même toujours un peu les mêmes questions qui sont abordées. Ou voilà, je dirais que ce serait ça.
C'est quoi le modèle économique de Sound Initiative?
L'équipe, à l'année, fonctionne avec l'aide de la DRAC. Île-de-France, l'aide de la région, et puis après des aides ponctuelles par projet, donc c'est souvent suite à des appels à projets, de l'Institut français pour tout ce qui est à l'international, pour l'échange culturel et tout ça, le département du Val-d'Oise où on fait beaucoup d'activités, et puis des structures telles que le Centre national de la musique ou la Maison de la musique contemporaine, voilà, sur des projets particuliers. Et puis pour le salaire des musiciens et des musiciennes, c'est des contrats qui sont avec les lieux de représentation, les festivals ou les résidences. Ça, c'est aussi par projet. Donc, on a en fait une structure qui comprend la direction artistique, qui a 12 heures par semaine de travail, une direction administrative et de production pour 10 heures par semaine, et une chargée de diffusion, de développement pour 8 heures par semaine.
C'est quoi ton rapport aux artistes et au public ?
Depuis le début, en fait, cette initiative a été dirigée par des musiciens et des musiciennes de l'ensemble. C'est une posture un petit peu particulière dans le sens où finalement, la direction artistique de l'ensemble a toujours été du point de vue de musiciens et musiciennes qui sont sur scène, qui ont comme raison d'être, ou de raison de vivre, je ne sais pas, la relation avec le spectateur, le partage. Et c'est un groupe aussi d'amis, bah, c'est une troupe un peu, je dirais. Au début, on a fait des commandes à des compositeurs et des compositrices. Et puis petit à petit, certains sont devenus aussi compositeurs et compositrices. Et petit à petit, ce qui s'est révélé le plus important pour nous, c'était vraiment les rencontres et la relation qui se créent sur scène ou avec les spectateurs et les spectatrices. Donc le rapport, c'est d'abord un rapport de collaboration. C'est un vrai travail d'équipe qui démarre toujours par une rencontre humaine, quoi. Aujourd'hui, bah, par exemple, on joue quand même pas mal des œuvres des musiciens aussi, musiciennes de l'ensemble, qui connaissent très bien le groupe et qui écrivent vraiment pour le groupe, pour le coup. Le rapport, il est d'abord à cet endroit-là.
Comment est-ce que tu es devenue directrice artistique ou curatrice, en l'occurrence ?
Moi, je suis pianiste à la base et puis je suis rentrée dans le groupe, dans l'ensemble. Et puis, l'ensemble a choisi des personnes du groupe pour être dans la direction artistique. Et puis, du coup, bah, j'ai commencé comme ça. Donc, c'est un métier que j'ai appris en faisant, motivée par l'envie de faire des concerts avec ces personnes-là, de trouver les moyens de les faire, les conditions pour que ça existe. Après, il y a la notion de curatrice de concert, d'être dans la conception, qui m'a toujours beaucoup intéressée. Je pense que c'est aussi lié à peut-être pourquoi on fait ce métier et puis d'avoir envie de défendre des choses à l'intérieur de ce métier-là. Et donc, d'être dans la conception même, ça permet ça aussi.
Comment est-ce que tu choisis les projets que tu montes ?
C'est une rencontre avec un lieu et les personnes qui dirigent ce lieu. Et puis, ses particularités architecturales, acoustiques. Et puis aussi, liées aux pièces que les musiciens de l'ensemble développent, soit en tant que compositeur-compositrice, comme j'ai dit tout à l'heure, soit en tant que performeur, avec des compositeurs et des compositrices qui sont invités, autour de la musique performative, comme on dit, c'est-à-dire avec des mouvements, et puis aussi des pièces qui sont en interaction avec le public.
S'il y en avait un, de quel projet serais-tu la plus fière, voire même la moins fière ?
Ces musiciens qui sont aussi musiciennes, qui sont aussi compositeurs, compositrices, ils prennent le risque aussi de s'exposer, ou même en tant que performeur aussi, de se lancer artistiquement, de dépasser peut-être des zones de confort, et puis aussi de proposer des choses qui peuvent être risquées, où le spectateur et la spectatrice ne sont pas forcément dans un confort tout de suite. Je trouve ça beau. C'est une forme de générosité et de vibration particulière dans ces moments-là, qui est perceptible, je pense, même si ce n'est pas forcément nommable avec des mots. Et j'aime ces concerts quand c'est comme ça, c'est-à-dire où il y a une prise de risque, on n'a pas peur d'avoir peur. Et ensemble, tous ensemble, quoi. Et du coup, on y va, et c'est partie du jeu. Et puis du coup, quand ça arrive, je trouve que c'est finalement une histoire d'être humain et de se lancer et d'y aller pour l'envie, en plus, de partager. Donc c'est pas, voilà, c'est sincère, c'est honnête. Et du coup, voilà, je dirais que ce serait ces moments-là où je serais le plus fier.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'une œuvre qui t'a marqué ? Plusieurs œuvres, d'ailleurs.
Dans les grands classiques sur la posture, Marcel Duchamp pour sûr, et puis John Cage aussi, dans cette manière d'intégrer le spectateur et la spectatrice aussi à l'œuvre, et de la réhabilité dans l'œuvre. Ce que je développe, c'est vraiment très proche de ça. Cette idée, c'est que c'est le spectateur ou la spectatrice qui fait son propre chemin, sa propre dramaturgie à l'intérieur de ça.
Et tu écoutais quoi quand t'étais petite ?
Tout ? C'est en fait mon premier mode de rapport au monde. Donc j'écoutais, j'écoutais les bruits, les musiques, les gens. Je dirais que j'ai toujours aimé, j'aime toujours beaucoup le silence, qui n'existe pas, bien évidemment.
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
Je dirais de ne pas se définir trop tôt. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Même si tout autour, on nous le demande quand même, hein. C'est vrai que sinon, on va courir après une identité reconnaissable, définissable, mais qui n'est pas nous. On nous demande toujours de nous définir et puis ça peut emprisonner, quoi. Peut-être de se préserver de ça afin de pouvoir développer son projet, de ne pas avoir peur d'être non définissable, même si ce n'est pas rassurant pour les autres, pour soi non plus, pas toujours. Et puis croire en soi, quoi. Même si c'est fou, même si c'est bizarre, même si tout le monde te dit que, bah non, quand même, c'est pas sérieux, ou que, bah non, en fait, pourquoi ? Enfin, et donc ça, et en même temps, parallèlement, se confronter à la réalité en permanence. C'est-à-dire faire, y aller, même si on se dit, oh, c'est pas les bonnes conditions, ça, c'est compliqué, non, fais-le. En faisant, tu vas apprendre des trucs, tu vas comprendre différentes choses. Parce qu'il n'y a rien de pire aussi que d'être dans sa tête et de ne pas être dans la réalité. Parce que, en fait, c'est pas la vie, enfin, du coup. Et ce qu'on va créer, c'est aussi avec des contraintes. Donc, je dirais quelque chose comme ça. J'espère que c'est assez concret.
Pianiste, performeuse, directrice artistique et curatrice de concerts. Les cordes à l'arc de Gwen Rouget sont nombreuses et nous indiquent la souplesse et l'agilité qu'impose la direction artistique. Il faut avant tout avoir une soif de curiosité et tenter perpétuellement de nouvelles expériences. C'est en essayant que se définit, au fil des saisons, la ligne artistique d'un ensemble. Pour faire écho à ce témoignage, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode, durant lequel nous nous entretiendrons avec Benoît Delacaise, en charge de la programmation artistique de la Maison de la Culture d'Amiens.